Bienvenue à tous. Pendant ce mois de Ramadan, il serait bon de réfléchir sur un certain nombre de problèmes qui concernent la connaissance de la pensée islamique, la connaissance de l'islam comme religion, et d'apporter une réflexion d'ordre historique au sujet de ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés musulmanes et au sujet des tensions que nous vivons entre l'islam et l'Occident, comme nous disons. Et j'ai choisi quatre sujets importants que nous traiterons successivement dans les prochaines émissions. Et je donne tout de suite le titre de ces sujets. Le premier dont nous allons parler, c'est trois grands penseurs du Moyen-Âge, très connus, qui ont été presque des contemporains. Ibn Rushd, philosophe arabe, musulman. Maïmonide, son contemporain, qui est un philosophe qui a écrit toute son œuvre en arabe, mais qui est un penseur juif. Et saint Thomas d'Aquin, grand théologien catholique, qui a écrit une grande somme théologique, elle s'appelle la Somme de saint Thomas d'Aquin, où Thomas d'Aquin utilise les travaux, les commentaires en particulier philosophiques d'Ibn Rushd. Ça, c'est le premier sujet dont nous allons parler. Le deuxième sujet dont nous allons parler, c'est quelque chose qui est ignoré parmi les musulmans et surtout parmi les Arabes. Je dis surtout parmi les Arabes parce que il s'agit de ce que nous appelons dans les temps modernes l'humanisme, l'humanisme arabe au Xe siècle, c'est-à-dire le IVe siècle de l'Hégire. Et nous traiterons de ce sujet extrêmement important pour rappeler aux contemporains, c'est-à-dire aujourd'hui, que dans un contexte islamique, puisque nous sommes encore au temps du califat, il y a eu un grand courant d'humanisme dans la pensée arabo-islamique. Arabo-islamique parce que tous les penseurs se sont exprimés en arabe. Troisième sujet qui est d'actualité, je partirai d'un livre récent qui a été écrit à propos du 11 septembre. C'est l'historien américain, anglo-américain Bernard Lewis qui a écrit un livre qui a eu un très grand succès parce qu'il essaye d'expliquer le 11 septembre, l'événement du 11 septembre, en remontant dans l'histoire jusqu'au temps des Ottomans, du XVIe siècle jusqu'à nos jours, pour expliquer comment la civilisation islamique, la culture d'expression arabe a progressivement perdu son importance, son rayonnement, régressé intellectuellement, ce qui a conduit à la situation actuelle. Alors ça c'est un sujet de très grande actualité sur lequel nous devons essayer de réfléchir et voir si ce qu'a dit Bernard Lewis dans son livre est acceptable du point de vue de l'histoire ou s'il faut y apporter des corrections. Enfin, un quatrième sujet que nous aborderons, qui est aussi d'une grande actualité, c'est une réflexion sur la violence. Nous constatons que dans toutes les sociétés contemporaines, aussi bien les sociétés riches, évoluées, occidentales, démocratiques, que les sociétés qui appartiennent à ce que nous appelions le tiers-monde, eh bien la violence ne cesse de se développer, soit la violence ouverte dans des guerres meurtrières, soit la violence sous la forme du terrorisme, soit la violence des quartiers populaires, comme cela se voit en particulier dans les grandes villes européennes, comme Paris, comme Washington, comme New York, comme d'autres villes européenne où il y a une forme de la violence qui est directement liée à la modernité. Alors, nous réfléchirons sur la violence en relation avec deux autres notions extrêmement importantes pour montrer comment la violence est liée au sacré et à la vérité. Voilà donc un programme que nous allons essayer de remplir. Aujourd'hui donc, nous allons parler de Ibn Rushd, Maïmonide, Thomas d'Aquin, trois penseurs du Moyen-Âge, puisque Ibn Rushd est mort en 1198, donc à la fin du XIIe siècle. Maïmonide, son contemporain, à peine plus jeune que lui, est mort en 1204. Les deux sont nés à Cordoue, ont vécu à Cordoue. Ibn Rushd a vécu aussi à Marrakech, sous les Almohades, et Maïmonide a vécu à Cordoue, mais, et à Fès aussi. Il aurait même enseigné à Fès, mais il a été obligé pour des circonstances de rapport avec les Almohades, qui étaient Mouahidoun, c'est-à-dire qui avaient une rigueur d'orthodoxie, qui faisait que Maïmonide, penseur juif, se sentait mieux au Caire que de rester au Maroc. Thomas d'Aquin, qui est d'origine italienne, a écrit donc une grande œuvre et il est mort, lui, en 1274. C'est le plus jeune des trois. Et il a bénéficié donc, comme je l'ai dit, des traductions en latin de l'œuvre d'Ibn Rushd et de certains écrits, pas tous, de Maïmonide. Pourquoi s'arrêter à ces trois penseurs? Eh bien, parce que aujourd'hui, on considère l'islam comme tout à fait détaché de ce qui fait l'originalité et la position forte dans le domaine de la pensée actuelle de ce qu'on nomme l'Occident, l'Europe et l'Amérique. Et on oublie, parce qu'on ne l'enseigne pas suffisamment, on oublie ce qui s'est passé dans les contextes islamiques, dans les villes islamiques du 7e au 13e siècle, puisque c'était le temps où la connaissance de la philosophie grecque était extrêmement répandue. Et quand on dit la philosophie grecque au Moyen-Âge, ce n'est pas seulement la philosophie au sens strict tel que nous l'étudions aujourd'hui, c'est-à-dire les interrogations philosophiques sur la métaphysique, sur la morale, sur la politique, sur les problèmes des rapports entre la langue et la pensée, etc., tous ces problèmes que nous étudions encore aujourd'hui. La philosophie à l'époque grecque et aussi au Moyen-Âge, c'était l'ensemble de la connaissance scientifique. C'est donc la raison humaine face à la connaissance scientifique en général, puisque la philosophie d'Aristote, par exemple, au-delà de ce que j'ai mentionné, la politique, l'éthique, la métaphysique, c'est s'intéresser aussi à la physique, à la météorologie, à la zoologie, à la botanique, à tout ce qui concerne le domaine de la connaissance scientifique tel que nous le connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, la connaissance scientifique, la recherche scientifique s'est différenciée, a pris son indépendance par rapport à la réflexion philosophique. Donc il est très important de connaître ce qui s'est passé pendant surtout la période du 8e au 12e, 13e siècle dans la pensée d'expression arabe, parce que la langue arabe était la langue intellectuelle, la langue scientifique de l'ensemble du bassin méditerranéen, c'est-à-dire de tous les peuples qui vivaient autour de la Méditerranée. Et l'arabe a pris en quelque sorte la place qu'occupait auparavant le syriaque, qui est une autre langue sémitique qu'ont utilisé les théologiens et les penseurs en Proche-Orient, en Syrie, Irak, Palestine, avant l'apparition de l'islam. Mais avant le syriaque lui-même, il y avait évidemment la langue grecque qui véhiculait justement la pensée grecque et la science grecque, et qui ont été traduits en syriaque d'abord, et ensuite justement traduits en arabe dans la période du 8e au 10e siècle en particulier. Je suis obligé de m'arrêter à ces indications pour aujourd'hui, et nous reprendrons l'exposé sur les trois penseurs médiévaux la prochaine fois, en parlant des deux autres et en essayant d'expliquer leur importance pour le Moyen-Âge, la période du Moyen-Âge, et pour notre temps aujourd'hui. Bienvenue à tous dans cette émission. Nous allons reprendre ce que nous avons fait déjà dans la séance précédente, et j'avais promis de reprendre l'étude de Maïmonide et de Thomas d'Aquin. Je vous ai trop brièvement parlé d'Ibn Rushd. Maïmonide, donc, est un penseur juif et il a écrit de nombreux ouvrages où il traite des problèmes de la théologie musulmane qu'il connaissait bien, Ilmul Kalam, et il discutait les problèmes de théologie musulmane avec des musulmans tout en appliquant sa réflexion au texte de la Bible hébraïque et aux problèmes particuliers que pose la pensée juive, qui était étudiée exactement comme l'a fait Averroès, avec les outils de pensée qui étaient empruntés à l'œuvre d'Aristote, à la logique d'Aristote, à la rhétorique d'Aristote, à la métaphysique d'Aristote, car ce qui fait le lien entre les trois penseurs en question, c'est que tous les trois ont utilisé le corpus philosophique d'Aristote, c'est-à-dire l'œuvre d'Aristote, qui était appelée dans le monde arabe le premier maître, le Mu'allim al-Awwal, et les Arabes ont nommé al-Farabi al-Mu'allim Thani, parce que justement, il donnait le premier rang à Aristote, et Aristote avait donc un prestige intellectuel dans tout le Moyen-Âge, aussi bien dans ce que nous appelons aujourd'hui le Proche-Orient que dans la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le Maghreb, l'Afrique du Nord, et ce qui était en ce temps-là l'Andalousie musulmane, mais au-delà de l'Andalousie, ces idées-là circulaient en Europe, ont atteint l'Europe par le biais de Tolède, qui était un grand centre de traduction des œuvres arabes en latin, et ces œuvres traduites en latin ont circulé dans les grandes universités européennes, à Paris, à Bologne, en Italie, à Oxford, en Angleterre, et c'est ainsi donc que cette pensée, qui est, comme on le voit, une pensée particulière au monde méditerranéen, à l'espace méditerranéen de la Grèce, elle a circulé déjà dans le Proche-Orient, elle a circulé, comme je l'ai dit, en syriaque, elle circule maintenant en langue arabe, elle circule en latin dans les traductions latines, et à partir du latin, elle va continuer à circuler, et à partir du XVIe siècle, elle va circuler dans les langues européennes, comme le français, l'italien, l'allemand, etc. C'est ce circuit-là qui est extrêmement intéressant à connaître pour montrer qu'il y avait une interpénétration entre les penseurs qui s'occupaient de l'islam, de la pensée islamique, de les problèmes particuliers au monde musulman, à l'état musulman califal. Les juifs n'avaient pas d'état politique, mais ils étaient une communauté très forte depuis très longtemps, ils sont restés une communauté forte, et les juifs avaient leurs penseurs, avaient leurs théologiens, avaient leurs rabbins qui continuaient la tradition rabbinique d'explication de la Bible, de commentaires de la Bible, et ce qui est nouveau avec en particulier Maïmonide, il y a d'autres philosophes juifs bien sûr, mais Maïmonide est l'un des plus grands, qui d'ailleurs est reconnu comme tel dans l'histoire de la pensée juive, et aujourd'hui Maïmonide est extrêmement étudié dans le monde juif, c'est l'un de leurs références majeures, alors que, ça c'est important à signaler, Ibn Rushd malheureusement n'a pas été cultivé comme la communauté juive a cultivé la pensée de Maïmonide, quoique les juifs aussi se sont méfiés et éloignés pendant un certain temps de la pensée de Maïmonide, parce que la tradition rabbinique a jugé qu'il utilisait trop la philosophie, il introduisait trop de considérations de type philosophique rationaliste, et donc le Maïmonide va revenir dans la pensée juive, surtout grâce à des rabbins qui ont exercé leur magistère dans les pays européens, et où la philosophie, comme on le sait, a pris une très grande importance à partir du XVIe siècle, tandis que du côté musulman, la philosophie, malheureusement, après la mort d'Averroès, donc à partir du XIIIe siècle, pratiquement a été marginalisée, puis carrément éliminée de l'horizon intellectuel, éliminée du curriculum des études islamiques, alors qu'auparavant, elle avait une place très importante dans le curriculum des études. Et c'est pourquoi j'ai choisi ces trois grands penseurs, pour montrer justement cette différence de traitement dans la pensée islamique, la pensée juive et la pensée chrétienne. Car Thomas d'Aquin, qui, je le rappelle, est mort en 1274, a construit la somme théologique sur laquelle la pensée catholique s'est édifiée et a évolué et a maintenu son magistère pendant des siècles. Et le thomisme, jusqu'à nos jours, est extrêmement étudié. Et même dans les années 1920-1930, il y a eu un mouvement de renouveau du thomisme en France et au Canada en particulier, avec le philosophe français Jacques Maritain, qui a créé autour de lui un certain nombre de disciples. Il y a eu une sorte d'école, de courant de pensée néo-thomiste. Donc ces trois philosophes mais aussi théologiens ont illustré un moment de l'histoire de la pensée dans l'ensemble de l'espace méditerranéen. Et on voit, grâce à ces trois exemples, pourquoi on peut parler aujourd'hui d'un espace méditerranéen de la pensée médiévale. Je crois que malheureusement nos 10 minutes sont épuisées. Nous allons donc nous arrêter aujourd'hui et je reprendrai le fil de cet exposé la prochaine fois. Bonjour tout le monde ou bonsoir selon le temps de diffusion de cette émission. Nous reprenons le fil de notre conversation et je m'étais arrêté au concept de espace méditerranéen pour une nouvelle histoire de la pensée dans cet espace. Nouvelle histoire, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, lorsqu'on enseigne l'histoire de la philosophie, on l'enseigne essentiellement dans une trajectoire qui a été déterminée et choisie en Europe, puisque on étudie l'histoire de la philosophie grecque. Et on fait un grand saut par-dessus le Moyen-Âge, même le Moyen-Âge chrétien, pour arriver tout de suite à l'enseignement de la philosophie avec Descartes, avec Leibniz, avec Spinoza, et on continue avec la philosophie moderne jusqu'à nos jours, en Europe. Et pendant longtemps, il n'a pas été question, dans les universités européennes, d'Averroès, Ibn Rushd, bien que Averroès, je l'ai dit, ait été extrêmement connu dans ces mêmes universités européennes pendant le Moyen-Âge, et il y a une coupure qui a été introduite en Europe par ce que nous appelons la modernité. Ça, c'est un point extrêmement important, et c'est pour parler de cette coupure-là que j'ai voulu introduire les trois grands penseurs dont nous avons déjà parlé. Et il faut très bien comprendre l'importance et les conséquences de cette coupure pour l'étude de la pensée islamique aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, la pensée juive, comme je l'ai dit la dernière fois, a pu bénéficier des apports de la modernité. Spinoza était un juif et il a contribué en tant que juif à introduire, après Maïmonide, c'est le plus grand penseur d'origine juive, mais européen. Il a vécu en Hollande, parce que la Hollande était un pays extrêmement libéral au XVIIe siècle. Et l'apport de Spinoza a été extrêmement important et il se relie à la tradition maïmonidienne, il se relie donc à la tradition médiévale et a développé une pensée philosophique qui s'est progressivement éloignée de la pensée médiévale parce que on commençait avec la Renaissance et avec la réforme protestante, l'intervention de Luther qui a modifié le fonctionnement du magistère théologique catholique à l'intérieur de l'Église catholique, puisqu'il a introduit la notion de libre examen des Écritures à l'intérieur du christianisme, et ça a été la grande séparation et la naissance du protestantisme, mais c'est un moment important de la modernité, et donc il va y avoir une continuité, mais en rupture, je l'ai dit, avec ce qui a fait l'originalité et une certaine richesse du Moyen-Âge, à savoir que les penseurs médiévaux étaient des théologiens qui utilisaient les outils philosophiques. Ça n'était pas d'abord des philosophes, bien que Maïmonide et Ibn Rushd sont parmi ceux qui ont poussé le plus loin l'adoption de la raison philosophique, justement pour modifier, enrichir par la philosophie l'attitude et la connaissance de la théologie. Peut-être serait-il bon que je dise aux auditeurs la différence qu'il y a entre la théologie et la philosophie, parce que sans connaître cette différence, on ne comprendrait pas les enjeux de l'histoire de la pensée dans l'espace méditerranéen, comme je l'ai dit. Alors, la raison théologique utilise des outils de la logique aristotélicienne, comme je l'ai dit, utilise les concepts travaillés par Aristote dans la métaphysique, dans la physique, utilise les catégories d'Aristote, la poétique d'Aristote, etc., mais pour mieux comprendre les textes révélés, les textes religieux révélés. Autrement dit, les textes révélés conservaient leur importance pour ces philosophes-là, et ils lisaient ces textes révélés avec des outils philosophiques pour construire une théologie musulmane pour les musulmans, juive pour les juifs, et chrétienne, catholique pour les catholiques, avec Thomas d'Aquin et d'autres penseurs, bien sûr, qui ont existé au Moyen-Âge. Tandis que la raison philosophique est une raison qui est indépendante du donné révélé. Elle ne s'occupe pas en premier lieu des textes révélés. Si elle lit les textes révélés, elle va les lire avec une raison interrogative philosophique qui va poser des questions de plus en plus concernant, par exemple, l'histoire des textes, comme le Coran, comme les évangiles, comme la Bible, c'est-à-dire l'histoire de la collection, de la mise de tous ces textes-là dans un même volume. Il y a une histoire de ces textes. Et depuis le XVIe siècle, il y a eu une science qui s'appelle la philologie, qui va introduire un regard nouveau sur les textes sacrés qui n'existaient pas au Moyen-Âge. Ça, c'est une grande rupture qui est intervenue pour la Bible et pour les évangiles, mais qui n'est pas encore jusqu'à nos jours intervenue en ce qui concerne l'histoire du texte coranique. Bien que des chercheurs orientalistes se soient intéressés à l'histoire du texte coranique, comme le grand arabisant allemand Nolde Keu et d'autres qui se sont intéressés à appliquer les méthodes de la philologie à l'histoire du texte coranique, comme elle a été appliquée depuis le XVIe siècle pour l'histoire de la Bible et des évangiles. Et donc là, on voit qu'il se creuse une distance entre ce qui se passe à l'intérieur de la pensée chrétienne en relation avec la modernité, aussi dans la pensée juive, mais la pensée juive reste méfiante avec Spinoza, elle a été méfiante comme elle l'a été avec Maïmonide, parce que les juifs vivent dans un état de minorité, aussi bien dans le climat islamique que dans en climat chrétien. Ce sont des Ahl al-Kitab dit l'islam, et ce sont, avec les chrétiens, les juifs ont eu encore une situation plus difficile à supporter, puisque la théologie catholique a considéré longtemps les juifs comme des déicides, puisqu'ils ont été accusés, comme on le sait, d'avoir eu une responsabilité dans la mort de Jésus. Donc ici, nous voyons se nouer un certain nombre de situations qui vont conduire à une marginalisation de la pensée islamique dans cet espace méditerranéen, où la pensée islamique d'expression arabe avait exercé une véritable hégémonie et connu une très grande expansion. Je reviendrai sur ce problème-là de la marginalisation, de l'affaiblissement, de la régression intellectuelle, du champ intellectuel de la pensée islamique du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, lorsque nous parlerons du livre de Bernard Lewis, parce que c'est justement l'objet de ce livre-là. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet-là. Je ne sais pas si nous allons avoir le temps de le faire pour terminer l'étude des sujets que j'ai annoncés. Nous verrons cela la prochaine fois. Bienvenue à tous. Nous reprenons notre enquête sur l'histoire de la pensée dans l'espace méditerranéen. Vous constatez que j'utilise le mot « penser » sans lui donner de qualificatif, parce que j'embrasse d'un même regard le devenir de la pensée islamique, de la pensée juive, de la pensée chrétienne et désormais, après le XVIe siècle, de la pensée moderne, laïque, qui va faire de grands sauts à la fois dans la connaissance historique, dans la construction de l'ordre politique et dans l'évolution du droit et de tous les autres domaines de l'existence des sociétés. Alors aujourd'hui, pour compléter un peu ce que nous avons vu jusqu'à présent à propos des trois grands noms, Averroès, Maïmonide et Thomas d'Aquin, nous allons parler de la question de l'humanisme aujourd'hui, parce qu'elle est directement liée au sort de la philosophie dans l'espace méditerranéen. Le terme humanisme a été utilisé en Europe, surtout à partir du XIVe, XVe siècle italien, dans les républiques italiennes, dont on connaît les avancées dans le domaine de la culture profane, de la connaissance de l'Antiquité, aussi la richesse des républiques de Gênes, de Venise, de Florence, et à partir de l'Italie, le mouvement que l'on appelle le mouvement de la Renaissance s'est étendu progressivement à l'ensemble de l'Europe, et l'humanisme a désigné justement la résurrection de la culture gréco-latine avec tout ce qu'elle avait fort et de spécifique dans le domaine de la philosophie pour la pensée grecque, dans le domaine de la pensée juridique et des institutions et de la construction de la cité romaine pour ce qui concerne Rome, et ces constructions scientifiques, philosophiques, juridiques de l'ancien, littéraire aussi de l'Antiquité vont être réactivées en Europe et déclencher le mouvement que l'on appelle humanisme. Alors l'humanisme, pourquoi ? Parce que la pensée va être centrée essentiellement sur la responsabilité de l'homme dans la construction de tout ce qui peut concerner l'existence humaine. L'homme devient responsable de l'homme. La raison humaine va progressivement s'éloigner du donné révélé, ce qu'on appelle le donné révélé dans les trois religions, et poursuivre l'examen et l'étude de la nature, le développement des sciences. On se rappelle la révolution copernicienne, la découverte de Galilée, la Terre tourne autour du Soleil et non pas le contraire. Il y a eu donc des révolutions scientifiques qui se sont opérées parce que l'homme regarde directement ce que fait l'homme. Et il le regarde d'une façon critique. Il n'a pas besoin de passer par la médiation de ce que Dieu a dit dans sa parole, de ce que Dieu a enseigné, et ça va être cette fameuse séparation entre la raison théologique et la raison philosophique qui va être accentuée par les progrès de la connaissance proprement scientifique, des révolutions scientifiques. Il va donc y avoir désormais en présence trois types de raisons, trois types d'exercices de la raison. Un exercice de la raison dans le champ religieux, et c'est la théologie et l'étude du droit canonique chez les chrétiens, du droit musulman chez les musulmans, du droit talmudique chez les juifs, d'un côté, et de l'autre côté, nous allons avoir la naissance du droit positif moderne, des institutions modernes, jusqu'aux grandes révolutions américaines, anglaises et françaises au XVIIIe siècle. L'humanisme, ainsi entendu, a existé, mais de façon tout à fait incoative, c'est-à-dire c'était des commencements simplement de ce qui va devenir l'humanisme moderne tel que je l'ai défini. Nous voyons des traits de l'attitude humaniste se développer et se répandre dans les cités musulmanes à partir du IXe siècle et surtout pendant le Xe siècle, c'est-à-dire le IIIe et le IVe siècle de l'Hégire. Le mot humanisme aujourd'hui, nous sommes obligés de le traduire par un néologisme arabe. J'ai un livre qui s'appelle « L'humanisme arabe au Xe siècle » justement, et il a été traduit en arabe et il a fallu trouver une traduction appropriée pour traduire ce contenu de l'humanisme qui est le regard de l'homme porté sur l'homme sans passer par Dieu. C'est un regard anthropocentré et non pas théocentré, c'est-à-dire théocentré, centré sur Dieu, et anthropocentré, centré sur l'homme. En arabe, donc, le néologisme, c'est ansana, al-ansana, ce qui a trait à l'homme, ce qui concerne la connaissance de l'homme et les activités de l'homme, interprété toujours sous la responsabilité de la raison humaine. Le mot humanisme au 9e et 10e siècle, en arabe, le mot utilisé c'est adab. L'adab, en effet, dans ces deux siècles-là, a signifié l'ouverture de la raison à la connaissance de tous les domaines de la science, de tous les domaines du savoir, et à une connaissance où la raison joue un rôle majeur. C'est la raison analytique et la raison critique, la raison interrogative, voilà les traits caractéristiques de la raison humaniste. La raison n'accepte rien sous une forme dogmatique. Si on lui présente, par exemple, un verset de la Bible ou un verset des Évangiles ou un verset du Coran, la raison peut poser des questions. Comment comprendre ce verset et comment l'analyser, etc. En effet, par exemple, le grand écrivain et penseur Mu'tazilit al-Jahidh, au 9e siècle, avait pratiqué cette attitude et avait contribué dans son œuvre à illustrer cette attitude interrogative, analytique, démonstrative de la raison. Il ne pouvait pas évidemment mettre totalement de côté les références aux textes religieux, mais lorsqu'il fait intervenir des textes religieux, il se permettait de poser un certain nombre de questions. C'est ce que l'on constate dans ces livres, par exemple le livre des animaux, Kitab al-Hayawan, ou bien Tarbi'a wa Tadwir, qui est un livre où il pose uniquement des questions, mais il les pose d'une manière extrêmement malicieuse, justement pour introduire sous une forme à la fois incisive et ironique, parce que l'ironie lui permettait de faire des avancées dans l'usage de la raison pour échapper aux critiques des théologiens conservateurs, en particulier de son contemporain Ibn Qutaiba, qui a écrit des critiques sévères à l'égard de ceux qui justement prenaient ce chemin-là de la raison. J'ai dit que Jahed est un Mu'tazilite, il appartient donc à ce grand courant qui est un courant de théologie, les Mu'tazilites, qui sont responsables, comme on le sait, je le rappelle, pour montrer cette émergence d'une raison interrogative, analytique et critique au 9e et 10e siècle. Ce sont les Mu'tazilites qui ont soulevé le riche et fécond problème du Coran créé, face auquel il y a eu la théorie adverse du Coran incréé. Malheureusement encore, il faut s'arrêter. Vous voyez que nous sommes malheureusement tenus par l'horaire, et donc je vous dis à la prochaine fois. Bienvenue à tous, nous reprenons le fil de nos conversations et je me souviens m'être arrêté de façon un peu abrupte sur la question du Coran créé et du Coran incréé. Je ressens la nécessité de préciser ce point parce que c'est une question qui est au cœur même de la pensée islamique. C'est une question aussi qui a une très très grande actualité, puisque elle touche à la manière dont les musulmans lisent le Coran et l'interprètent. Et je n'ai pas le temps de tout dire, bien sûr, sur cette question importante. Les auditeurs qui s'intéressent et qui doivent, à mon avis, s'intéresser à l'histoire de cette question-là, parce que c'est toute l'histoire du destin de la raison dans la pensée islamique, du rôle de la raison dans la pensée islamique. Et cette étude-là, du rôle de la raison, de l'histoire de la raison, n'est pas suffisamment enseignée, hélas, ni dans nos écoles, nos lycées, dans les pays musulmans, et même dans les universités. Ça s'enseigne, bien sûr, heureusement, mais ça ne s'enseigne pas toujours d'une manière ouverte, comme j'ai essayé de le faire à l'ensemble de l'espace méditerranéen et à l'ensemble de la pensée telle qu'elle a évolué, aussi bien en Europe que du côté musulman. Donc, cette question du Coran créé et incréé a donné lieu à deux moments très forts. Le premier moment, c'est au temps de Al-Ma'mun, entre 820 et 833, où le calife El-Ma'moun a essayé d'user de son autorité pour faire de la théorie du Coran créé une théorie officielle qui serait enseignée officiellement et développée officiellement avec l'appui de l'autorité califale elle-même. Et ça a déclenché une grande opposition d'un mouvement de pensée qui est représenté par Ibn Hanbal, l'imam de l'école hanbalite dont on connaît l'importance, et c'est une des écoles qui aujourd'hui occupe une place extrêmement importante comme on le sait. Mais le hanbalisme d'aujourd'hui n'est pas le hanbalisme d'Ibn Hanbal, parce que les grands hanbalites comme Ibn al-Jawzi, comme Ibn Taymiyyah, comme Bouyil Qadhi Abu Ya'la et comme beaucoup d'autres étaient aussi des rationalistes. Ils étaient ouverts à la culture rationaliste seulement, ils avaient des positions théologiques assez fermes, en particulier sur la question du Coran. Ce sont donc ceux qui ont refusé la théorie du Coran créé pour imposer la théorie du Coran incréé. Deuxième épisode extrêmement important, c'est sous le calife Al-Qadir au XIe siècle, c'est-à-dire Ve siècle, où Al-Qadir a fait lire dans toutes les mosquées de Bagdad un décret califal interdisant carrément aux musulmans de s'occuper désormais ou de soutenir désormais cette théorie du Coran créé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, l'intensité intellectuelle de la discussion entre les partisans du Coran créé cette intensité était très créatrice intellectuellement. Elle excitait l'inventivité dans la discussion de la théorie et dans le rapport que la raison peut avoir avec le texte coranique, comme avec le texte évangélique pour les chrétiens et pour les musulmans, et pour les juifs, car les contacts continuent de se faire en ce temps-là. Et donc il y a là un champ intellectuel extrêmement fécond qui a été clos par une décision politique. Et ça a posé des problèmes tout à fait considérables que nous retrouverons prochainement lorsque on parlera du livre de Bernard Lewis. Je reviens à la question de l'humanisme pour ajouter que un grand, il y en a plusieurs, ce que j'ai appelé la génération de Miskawaï. La génération de Miskawaï, c'est la génération qui a vécu entre 350 et 400 de l'Hégire, c'est-à-dire environ 1030 jusqu'à 1100. Et cette génération-là a été flamboyante, très riche, et je retiendrai deux noms en particulier, celui de Miskawaï, qui a été un grand philosophe et un grand historien, et celui de son contemporain Abu Hayyan Tawhidi. Ce sont deux grandes figures d'intellectuels. Mais Abu Hayyan Tawhidi était ce qu'on appelle un intellectuel révolté. Et il rappelle l'attitude d'Albert Camus, le grand écrivain français algérien, d'origine algérienne, qui a vécu en Algérie, comme on le sait, et qui a écrit « L'homme révolté ». Eh bien, Abu Hayyan Tawhidi était un homme intellectuellement révolté, c'est-à-dire qu'il a écrit, par exemple, un livre contre les deux grands vizirs de son temps, qui étaient des vizirs humanistes, initiés à la connaissance humaniste, l'adab. C'était des maîtres de l'adab, mais de l'adab au sens de ce temps-là, c'est-à-dire humaniste et non pas littérature seulement comme aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a changé la traduction du mot humanisme. Et l'œuvre d'Abu Hayyan Tawhidi, malheureusement, n'est pas suffisamment enseignée parce que elle représente une révolte intellectuelle extrêmement saine et extrêmement éducative pour justement faire connaître l'originalité et la nécessité dans la vie d'une pensée de l'attitude humaniste, mais d'une attitude humaniste critique et exigeante intellectuellement. Je fais un saut vers l'actualité. Qu'est devenu l'humanisme en Europe? Eh bien, nous savons que, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, mais déjà avec la critique philosophique de Karl Marx en Europe, l'humanisme idéaliste, abstrait, un humanisme littéraire qui ne s'est pas traduit dans la politique, exactement ce qu'exigeait Abou Hayyan Tawhidi au Xe siècle, et a été progressivement critiqué en Europe et progressivement donc disqualifié comme référence à la fois philosophique et scientifique et humaniste au sens de l'attitude humaniste concrète pour avoir une culture qui circule et qui est partagée par tout le monde dans la cité. Et c'est pour cela que aujourd'hui, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'humanisme, on y aspire, on voudrait le réactiver, on voudrait le faire vivre, mais même en Europe, c'est devenu une attitude problématique. Je n'ai pas le temps de préciser pourquoi, mais c'est une ligne de pensée qu'il faudrait poursuivre. Et j'ajoute que dans la pensée islamique, dans les contextes islamiques, j'ai écrit un livre en arabe qui s'appelle « Combat pour l'humanisme en contexte islamique au pluriel », pour montrer que ce courant de pensée si fécond et si prometteur et si nécessaire, je l'ajoute, dans les contextes islamiques, a pratiquement disparu depuis la fin de la Nahda, c'est-à-dire de tout ce qui s'est passé pendant le 19e siècle et jusqu'en 1940, c'est-à-dire le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, il faudra étudier de très près ce qui s'est passé pendant la Nahda et ce qui s'est passé immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1950 en particulier, parce que là aussi, nous avons vécu et nous vivons une page de régression intellectuelle qui fait que nous avons absolument besoin de revenir à cette question humaniste. Hélas, 10 minutes, c'est toujours trop court, et chaque fois que j'essaye de prendre un élan, je suis obligé de m'arrêter et on me fait signe que c'est terminé. Donc, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, et je vous remercie de votre fidélité pour ceux d'entre vous qui ont suivi depuis le début ces courtes émissions. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de ce livre écrit par Bernard Lewis et publié au mois de mai 2002 et qui porte un titre ambitieux, puisqu'il se demande qu'est-ce qui s'est si mal passé dans le monde musulman. What went wrong, en anglais, le titre anglais. Et il vient d'être traduit en français sous le titre Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? C'est une question déclenchée par cet événement majeur du 11 septembre. Et il est majeur parce que il touche l'Amérique, et quand on touche l'Amérique, c'est le monde entier qui est ébranlé. Et la question que pose Bernard Lewis, qui est un historien connu de l'islam et de la, pas de la pensée islamique, mais des sociétés musulmanes, est une question extrêmement importante qui doit être prise au sérieux. En effet, nous avons l'habitude d'étudier la période qui s'étend du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle sous le nom de décadence. C'est la période de décadence de la culture arabe, de la pensée arabe et par conséquent de la pensée islamique. Le mot décadence, pour les historiens, pose un grand nombre de problèmes que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est de suivre le raisonnement de Bernard Lewis pour apporter une explication de la genèse historique de la situation que vivent aujourd'hui les sociétés arabes et plus généralement les sociétés musulmanes. Le raisonnement de Bernard Lewis consiste à dire que, nous l'avons dit dans les premières causeries, la civilisation musulmane a connu un moment d'hégémonie, un moment de grande expansion dans le bassin méditerranéen et au-delà du monde méditerranéen. Et puis, à partir du XIIIe siècle, et surtout à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, il y a eu régression sur tous les plans de la culture et de la civilisation, et l'historien essaye d'expliquer les raisons de cette régression. J'ai dit XIIIe siècle et ensuite j'ai dit XVIIe, XVIIIe siècle, parce qu'il y a l'intervention de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, je rappelle que les Ottomans, les Turcs ottomans, ont pris Constantinople en 1453. Constantinople qui avait été jusque-là la capitale de Byzance. Les Ottomans, prenant Constantinople, ont créé un vaste empire qui incluait l'ensemble du Proche-Orient, depuis l'Irak jusqu'à l'Algérie, échappé à l'Empire ottoman, l'Iran, qui avait son destin particulier, historique particulier, et puis le Maroc, qui avait aussi son État et sa monarchie particulière, mais tout cet ensemble, qui est l'ensemble pratiquement de la Méditerranée, sauf évidemment le nord de l'Europe, était sous l'autorité de l'Empire ottoman. Cet empire, effectivement, a tenu tête à l'Europe du 15e, du 16e, jusqu'au 17e siècle, mais après le 17e siècle, la montée de l'hégémonie européenne dans le bassin méditerranéen, mais aussi ailleurs, puisque il y a une très grande date aussi qu'il faut retenir pour expliquer les rapports de force entre le monde arabo-turco-irano-musulman dans le monde méditerranéen et le monde européen. La grande date, c'est 1492. 1492, il s'est passé deux grands événements. C'est la fin de la présence musulmane en Andalousie. Tous les musulmans qui restaient en Andalousie ont été expulsés par les rois catholiques, expulsés d'Andalousie. C'est la fin de cette grande page d'histoire inscrite par les arabo-berbéro-musulmans et hispano-musulmans aussi en Andalousie. C'est un très grand moment qui, un moment de défaite et d'abaissement pour du côté de l'islam, mais un moment de montée et de victoire pour le monde chrétien de ce temps-là, parce que c'est au nom du christianisme que les rois catholiques ont fait la reconquista de l'Espagne. Et l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre grandissant des forces entre une Europe en pleine ascension, à cause de la modernité scientifique, qui se traduit par une modernité technique et de plus en plus technologique ensuite, et de l'autre côté, au contraire, des sociétés qui s'affaissent, des sociétés qui reculent par rapport à la situation qu'elles ont connue avant le XIIIe siècle. Il y a là donc un phénomène historique d'une extrême importance qui, jusqu'à présent, n'a pas fait l'objet d'une investigation historique, critique, pour expliquer ce qui s'est passé. Par exemple, je ne connais pas d'études approfondies qui se poseraient la question suivante. Comment expliquer l'échec de la pensée si riche d'Averroès dont nous avons parlé, l'échec du côté arabe et musulman, et la réussite, le succès franc, massif de cette même pensée dans l'Europe chrétienne du XIIIe siècle jusqu'au XVe, XVIe siècle. On continue à mentionner, à référer à la pensée d'Averroès. Pourquoi ce succès d'un côté et cet échec de l'autre chez lui-même, chez Averroès? Ça, c'est un mystère que les historiens, malheureusement, n'ont pas suffisamment percé par les recherches qui ont été faites, parce que il faut une méthode particulière pour répondre à cette question. La méthode consiste à faire ce que j'appelle la sociologie de l'échec d'Averroès en climat islamique, en contexte islamique, et la sociologie de la réussite d'Averroès en contexte chrétien. Parce que il faut tenir compte de ce que les sociologues appellent les cadres sociaux de la connaissance. Si la société, les sociétés urbaines de Fès, de Kérouan, du Caire, de Bagdad, l'Espagne a disparu maintenant, si ces cadres sociaux ne sont pas ouverts comme ils l'avaient été à des connaissances scientifiques, à l'adab dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances, une curiosité insatiable pour acquérir ces connaissances, les enseigner, les diffuser. Si ces cadres-là viennent à manquer, eh bien, vous pouvez avoir les plus grands penseurs, comme Ibn Khaldoun, qui a subi le même sort presque que Ibn Rushd, eh bien, la pensée d'Ibn Khaldun, la pensée d'Ibn Rushd, sont restées pratiquement lettres mortes pendant des siècles. Il faut attendre le 19e siècle pour que on renoue avec des interrogations de type scientifique grâce au premier contact que les sociétés musulmanes vont avoir avec la modernité européenne. Malheureusement, cette modernité européenne a été présentée dans les sociétés musulmanes, arabo-turco-musulmanes, c'est parce qu'il faut mentionner toutes ces cultures. Je dis arabo-turco-irano parce qu'il y a la langue turque, parce qu'il y a la langue persane, il n'y a pas que la langue arabe. Et il faut ouvrir les choses et non pas les fermer comme nous l'avons fait, parce que justement nous sommes les héritiers de ce rétrécissement considérable des horizons de pensée, des horizons intellectuels, de ce qui a été l'adab, au point que le concept d'adab, nous l'avons perdu. Aujourd'hui, si nous disons l'adab, si j'avais traduit mon livre Adab fil Qarn al-Rabi' al-Hijri, l'adab c'est la littérature, tous les arabes vont comprendre, c'est la littérature, ça n'est pas du tout ce dont je parle. L'histoire de la pensée. Donc, il y a vraiment des questions vitales pour nous qui restent absolument à étudier, et pour cela, nous ne pouvons pas le faire tant que nous n'avons pas une politique de développement des sciences, de l'enseignement des sciences sociales, de la recherche en sciences sociales, parce que l'histoire ne s'écrit plus comme elle s'écrivait dans les années 50 même, ou encore moins comme elle s'écrivait avant les années 50. Les historiens le savent, mais beaucoup d'étudiants ne le savent pas, je peux en témoigner, mes étudiants ignorent, qui viennent pourtant à la Sorbonne pour faire des thèses, eh bien, ils ignorent que aujourd'hui, pour écrire l'histoire, il faut faire ce qu'on appelle la sociologie historique. Ce que j'ai dit à propos d'Ibn Rushd, il faut faire de la psychologie historique pour étudier l'évolution de la raison et des fonctions de la raison dans la culture et dans la société, et pour étudier l'évolution de la conscience politique, ou au contraire l'effritement, la désintégration de la conscience politique, parce qu'il n'y a pas de culture pour la nourrir et pour la soutenir. Et toutes ces études-là, malheureusement, ne sont pas faites parce que ces disciplines nouvelles qui se pratiquent en Europe, et même en Europe, je ne dirais pas qu'elles se pratiquent toujours d'une façon satisfaisante, mais enfin, là au moins ça existe et il y a des travaux extrêmement importants dont on aimerait, que l'on aimerait voir se multiplier pour l'étude du domaine arabo-turco-irano-musulman dans l'espace méditerranéen. Cela ne veut pas dire que je néglige l'Indonésie, l'islam de l'Inde, le Pakistan, le reste du monde musulman, et ça pose des problèmes particuliers à cause des langues et à cause des contextes culturels différents. Merci pour votre attention et je suis obligé, comme d'habitude, de vous dire au revoir et à la prochaine fois.
L'islam, hier, aujourd'hui et demain, une émission proposée par Mohamed Al-Koun. L'islam, hier, aujourd'hui et demain. Une émission proposée par Mohamed Al-Koun.
Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, j'ai repensé à tout ce que nous avons dit jusqu'à présent et je ressens une insatisfaction parce que j'ai parlé trop rapidement de sujets extrêmement importants et brûlants, mais il fallait le faire chaque fois en 10 minutes, et c'est cela que nous imposent nos médias modernes. Mais il faut féliciter Radio Orient d'avoir ouvert ses ondes. C'est déjà un très grand progrès de laisser la parole à un historien de la pensée pour parler comme j'ai parlé. Ça n'est pas habituel. Et là aussi, je lance un appel aux médias dans le monde arabe, dans le monde musulman, pour qu'elles accordent davantage de temps à des professeurs, à des chercheurs, pour venir exposer le résultat de leurs recherches et diffuser cette connaissance dont les jeunes, je le sais, et aussi les adultes, tout le monde, a un très grand besoin pour essayer de limiter les ravages que continue de causer chez nous, partout, ce que j'appelle les idéologies. Des idéologies qui nourrissent l'imaginaire, et plus l'imaginaire se nourrit d'idéologies, plus la raison analytique, la raison interrogative, la raison soucieuse de contrôle de tout ce qui se fait et se dit au nom d'elle-même, au nom de la raison, eh bien, elle rétrécit, elle recule, et malheureusement, nous la voyons reculer de plus en plus dans nos sociétés. Aujourd'hui, je vais aborder un problème extrêmement difficile, mais tout aussi important que ceux que j'ai soulevés jusqu'à présent, mais peut-être celui-ci a-t-il une importance encore plus grande. C'est la question de la violence. Nous vivons dans un climat de violence, nous en souffrons tous, et dans toutes les sociétés, et les gouvernements semblent incapables de trouver une réponse efficace, adéquate, pour arrêter le développement de cette violence. Dans le domaine de la recherche, car la recherche est nécessaire quand il y a des phénomènes aussi complexes qui menacent la société, la pensée scientifique doit être mobilisée, comme pour les maladies. Quand il y a une maladie grave, il faut des recherches en laboratoire pour conjurer l'extension de la maladie. Et bien là, il y a des maladies qui atteignent l'esprit, la vie de l'esprit, qui atteignent la vie mentale des hommes en société. Et il faut des recherches sur ce domaine-là. Alors, sur la question de la violence, il y a un anthropologue français qui a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès il y a longtemps, dans les années 70, c'est René Girard, qui a écrit un livre qui s'appelle « La violence et le sacré ». Et il explique comment la violence est liée à l'idée de sacré. Et qui dit sacré, dit religion. Car les religions construisent leur vérité, construisent leur enseignement sur la base du sacré, en désignant les régions du sacré, c'est-à-dire de ce qui doit être absolument respecté par les hommes. Respecté parce qu'il est en relation avec le saint, avec les enseignements de Dieu, et il est en relation avec les traditions religieuses. Et donc nous voyons qu'ici, c'est le problème du fait religieux qui va être engagé. Le fait religieux, le phénomène religieux, quand on parle de phénomène religieux, on parle de toutes les religions, et pas d'une religion particulière. Et ici, je souligne la difficulté qu'il y a pour les musulmans à entrer dans ce domaine de la connaissance. Parce que les musulmans, jusqu'à présent, se contentent de parler de l'islam qui est leur religion. Ils ignorent pratiquement les religions les plus proches de l'islam. Que connaissent les musulmans du judaïsme? Que connaissent les musulmans des diverses branches du christianisme? Et je dirais même, je parle en tant qu'historien de la pensée, bien sûr, les musulmans ignorent beaucoup de choses concernant la pensée islamique telle que nous l'avons évoquée très brièvement. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très difficile d'avancer et d'exposer ce sujet-là, violence sacrée, tel qu'il a été exposé par l'anthropologue René Girard. Et je complique encore plus les deux concepts retenus par René Girard, violence et sacré. Moi, je construis un triangle, c'est-à-dire trois sommets qui délimitent un espace, l'intérieur du triangle déterminé par violence, sacré, vérité. Chaque concept occupant un sommet du triangle, un des sommets du triangle, et les actions des hommes, l'existence des hommes se déroule à l'intérieur de ce triangle. et ils sont obligés par conséquent de voir comment se relient les fonctionnements de la violence, du sacré, de la vérité dans la société. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les évangiles, quand nous lisons les Upanishads, quand nous lisons tous les textes fondateurs des religions, nous constatons qu'il est question de vérité. Il faut connaître l'histoire des systèmes de pensée théologique tels qu'ils ont été construits à l'intérieur de chaque communauté pour montrer comment les textes fondateurs ont été lus par chaque communauté pour traduire la vérité de ces textes dans des systèmes de pensée théologique construits par ces clercs que l'on appelle des théologiens. Or, la théologie, comme nous l'avons dit, malheureusement, ne s'enseigne pas, ne s'étudie pas. Nous sommes par conséquent coupés de ce type de savoir. Donc il y a là un domaine extrêmement riche, extrêmement varié, et un domaine que nous ignorons. Voilà pourquoi, lorsqu'on utilise les références à nos textes fondateurs, nous les interprétons d'une manière rapide, et c'est là que nous sacralisons des vérités.
Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons. C'est avec plaisir que nous allons renouer avec les sujets dont nous avons déjà traité la dernière fois. Et j'avais évoqué beaucoup de problèmes, mais pas encore le problème de l'enseignement de religion à l'école. C'est un problème très épineux sur lequel il y a des problèmes non résolus, puisque l'attitude adoptée par les ministères de l'éducation